Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute. Salut Amélie, bienvenue sur le podcast Le futur c'est maintenant. Je suis ravi de t'avoir avec moi ce matin. C'est vrai que c'est un deuxième essai, parce que la dernière fois on a eu des petits problèmes de connectique et là tout est bon. L'idée aujourd'hui c'est qu'on puisse discuter un petit peu de ton parcours, ce que tu fais chez Nova Pulse et puis peut-être de tes nouveaux horizons. Mais voilà, moi j'ai un bon souvenir de toi parce que c'est vrai que quand je t'ai rencontré, on cherchait des bureaux avec mon équipe et gentiment tu nous as ouvert une salle dans l'incubateur Nova Pulse pour nous accueillir. C'est vrai que c'était plutôt pratique pour faire cette fameuse réunion d'onboarding avec mes deux alternants. Donc j'en garde un bon souvenir. Comment tu vas ce matin, Amélie ?
Très bien, bonjour tout le monde.
Salut. Du coup, est-ce que tu peux te présenter ? J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours. C'est vrai que j'aime bien connaître le parcours des gens, ce que tu as fait avant d'en arriver là, chez Nova Pulse, avant d'ouvrir Nova Pulse, parce que c'est vrai que c'est toi qui es à l'origine du projet ou de la construction de Nova Pulse. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
Bien sûr. Moi, je suis Amélie. Je suis originaire de Pénétin, une bourgade, un petit village au bord de mer dans le 56. Hein. Je suis maman de deux filles, Clémence et Louise, qui ont 12 et 8 ans. Et j'ai eu plutôt une enfance joyeuse dans ce village. Pour débuter la vie, c'est toujours intéressant. Mon jardin, c'était une plage.
Ah,
donc, on part bien dans la vie. Donc aujourd'hui, j'aime la mer, j'aime le soleil. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, il fait un soleil magnifique. Donc oui, avant d'arriver à Nantes et chez Nova Pulse, bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu un parcours scolaire et professionnel. Ça a pris du temps, tout ça.
Ouais.
Donc moi, j'ai un parcours plutôt école de commerce. Je suis passée sur les bancs de Nantes ici, donc c'est pour ça que je suis revenue aussi à la source il y a 5 ans. J'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, et j'ai intégré en stage PwC, en conseil en RSE, développement durable, parce que c'était une voie que j'avais trouvée chouette au moment de mon école de commerce. Je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas si je voulais faire du marketing, de la finance, du contrôle de gestion. Il n'y a rien qui me bottait vraiment, et une filière s'est ouverte qui s'appelait RSE et développement durable. J'ai dit, ça, c'est le futur. Et je le prends maintenant.
Trop bien. Et du coup, PwC, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas.
Alors, c'est un cabinet de conseil.
Okay.
C'est plutôt un cabinet d'experts comptables.
Okay.
Ils certifient les comptes des entreprises.
D'accord.
Mais ils ont aussi des branches conseil et stratégie dans lesquelles moi, j'étais.
Ouais.
Et finalement, on les appelle les Big Four. Ils sont capables de tout faire. C'est-à-dire qu'ils savent accompagner les entreprises, hein, généralement, sur tous les sujets. Fiscaux, droit, conseil en achat, tout en fait. Ils savent tout faire et moi j'étais vraiment dans cette BU RSE développement durable.
Okay.
C'était un des pionniers à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de métiers en développement durable parce que si on revient en arrière, c'est 2005. L'école dans laquelle j'étais, c'est la première école à avoir lancé une filière RSE développement durable. Donc on était sur des nouveaux métiers. Eux, ils ont été plutôt les pionniers sur ces sujets-là. Maintenant, il y a énormément de conseils qui font de l'accompagnement sur ces sujets. Mais à l'époque, on était sur les débuts parce que des entreprises comme AXA, Bouygues, toutes les grosses entreprises n'avaient pas encore de fonction de direction développement durable. Donc ils avaient besoin d'accompagnement de consultants pour lancer la machine, comme on dit, et impulser la démarche.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie, du coup, Amélie ?
Ce que je disais, parce qu'il n'y avait pas d'autres fonctions dans l'entreprise qui m'attiraient plus que ça.
Mais par rapport à toi,
par rapport à moi, je pense que c'est ma passion de l'autre, de l'humain et de la planète, probablement.
Parce
que je me suis dit, tiens, il faut que j'ai un métier qui fasse sens pour moi aussi. C'était un driver dans ma vie. Et il s'avère que quand j'ai choisi en plus cette filière, j'étais en mission humanitaire au Pérou. Donc j'étais en train d'aider des enfants de la rue à sortir de la rue, parce qu'ils se droguaient au Terrocal. Et ça faisait sens, en fait, de voir qu'on pouvait aussi, dans l'entreprise... Parce que j'avais cette appétence pour l'humanitaire, pour cette démission humanitaire, que dans l'entreprise, on pouvait peut-être aussi appréhender le business et appréhender le développement économique sous un autre angle, avec des nouvelles lunettes. Donc c'est ce qui m'a attirée à l'époque, parce que ce besoin de sens dans ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette filière.
Hyper intéressant. Et du coup, la transition avec Nova Pulse, tu as eu une expérience avant d'arriver ici
Dans l'incubateur.
Oui, alors avant, j'aimerais bien raconter une autre anecdote parce que je pense que ça peut intéresser les étudiants qui cherchent.
C'est ton moment, ami.
Qui cherchent un job parce que mon entrée chez Price, ça s'est fait avec un peu de détermination.
Ouais.
Il y avait les deux associés de chez Price qui venaient faire des cours en RSE dans mon école. Donc, ils se sont dit à la fin, je vais prendre un stagiaire de votre école. Mm-hmm. Tout le monde a envoyé des CV, évidemment, parce qu'on avait tous plutôt envie d'entrer dans ce cabinet de conseil. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés à l'époque encore. Et on est une dizaine peut-être à postuler sur le poste. Mm-hmm. Et je ne suis pas convoquée sur la base de mon CV à cet entretien. Je me dis, tiens, que se passe-t-il? On a juste 2 ans, 3 ans d'école chacun. On n'a pas des CV de fou non plus. Donc je prends mon téléphone et j'appelle l'associé. Et je lui dis, je ne comprends pas, mon CV n'a pas été retenu. J'aimerais bien quand même vous présenter mes motivations. Mais c'est avéré qu'il n'avait pas. Mon CV, c'était perdu.
Comme quoi.
Voilà. Donc c'était intéressant de parler de ça parce que je pense que quand on reçoit... Pas de réponse, il faut considérer que ce n'est pas un non pour le coup, mais c'est qu'il y a encore un petit espoir. Donc j'avais pris ce téléphone, j'ai été convoquée et c'est avéré que j'étais la stagiaire qui a été recrutée chez Price. Donc ça, c'est un premier tips que je pourrais donner à des étudiants qui cherchent un job. Je pense qu'il faut provoquer aussi, quand on pense qu'on a envie d'être quelque part, il faut y aller, quoi.
Mmh. Non, c'est vrai que d'aller au bout des choses, d'essayer d'aller même... comme tu le dis, prendre le téléphone quand on postule, quand on candidate, même aller obtenir un nom et comprendre pourquoi ça permet de progresser,
ça.
De s'améliorer.
Je voulais le comprendre.
C'est la bonne attitude à avoir et je pense que c'est aussi rassurant pour soi-même que d'aller au bout des choses, sinon ça, c'est quelque chose qui peut te hanter. Tu n'as pas de réponse, alors tu te fais des scénarios et au final, comme tu viens de le dire, il n'avait juste pas ton CV.
C'est un peu un fil rouge parce que c'est revenu plusieurs fois dans ma vie professionnelle, donc il faut la détermination, persévérer, provoquer les choses finalement.
Comment t'as vu son numéro de téléphone, tu te souviens?
Comment j'ai eu, c'est une bonne question. Je pense que j'ai dû appeler le standard. J'avais pas son numéro de téléphone, très honnêtement. Il nous l'avait pas donné à la fin des cours, donc je pense que j'ai appelé le standard et j'ai réussi à y accéder parce que. Voilà, en racontant une histoire, en disant que je l'ai eu en cours, enfin bref, ça s'était passé quoi, il n'y a pas eu de barrière.
Top, c'est des bons conseils ça. Ouais. Et tu peux nous parler un peu de la jeunesse de Nova Pulse là, et nous présenter peut-être, commencer par nous présenter Nova Pulse ou comme tu le sens.
Oui, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas Nova Pulse en effet. Donc Nova Pulse, c'est un accélérateur pour les entreprises innovantes du territoire, en Bretagne et en Pays de la Loire. Et on les accompagne pendant une année dans le développement de leur entreprise et souvent ils sont en amorçage commercial. Ils sont en réflexion, en structuration sur la partie financière et en réflexion sur est-ce que je vais avoir besoin d'un partenaire financier pour accompagner ce développement et cette ambition. Et donc, nous, on les éclaire et on les acculture à tout cet environnement parce qu'on est connecté au monde du financement. Parce que Nova Pulse, c'est une filiale de Soudéro Gestion, qui est un capital investisseur de la place nantaise et rennaise, qui accompagne les entreprises depuis une trentaine d'années en haut de bilan, donc en prenant des parts au capital et en les accompagnant sur du long terme dans leur croissance.
Rattaché à la Caisse d'épargne.
Et c'est rattaché à la Caisse d'épargne.
Et donc, comment tu as découvert, toi, Nova Pulse? Ça existait quand t'as envoyé ta candidature une deuxième fois, du coup?
Non, ça n'existait pas.
Ouais.
Ça n'existait pas, donc c'était une création de poste et une création de projet qui était issue d'une réflexion de l'équipe de Soudéro Gestion et de son ancien DG, Philippe Kellenec, qui a dit on a un bâtiment, on a de l'espace. On n'est pas forcément aujourd'hui sur l'accompagnement des entreprises naissantes, type start-up, innovation. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un incubateur accélérateur qui sont des nouveaux métiers finalement, et des nouveaux dispositifs qui ont émergé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a création de poste et ils ont recruté quelqu'un. J'étais la première personne salariée de Nova Pulse pour lancer le projet. Donc, en partant d'une page blanche, très clairement. En partant d'une page blanche parce qu'il y avait tout à écrire, tout à faire, se positionner dans l'écosystème et écrire ce qu'on avait envie de faire avec ces entrepreneurs.
On était en quelle année, tu t'en souviens à peu près?
2017.
Ah, tu t'en souviens.
Ouais, c'était il y a 5 ans, parce que je m'en souviens très bien parce que c'est mon move de Paris à Nantes, donc c'est un move aussi très personnel, donc c'est quelque chose qui m'arrive dans la vie quand on bouge comme ça, on déménage après 12 ans passés sur Paris. Donc je m'en souviens très bien, c'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, en plus, je suis dans l'étape où on commence à regarder dans le rétro et on se dit, tiens, est-ce que j'ai fait ces 5 dernières années, c'est bien, quoi.
Bon, ça a l'air plutôt pas mal déjà. Si on se parle aujourd'hui, c'est qu'il y a de belles histoires qui se créent en partie aussi grâce à toi. Nova Pulse, ça vient d'où le nom Nova Pulse?
Eh bien, c'est un brainstorm d'équipe chez Soudéro Gestion. D'accord. Il me semble que c'est Nathalie Leroux qui l'a trouvé, qui est déjà baignée dans le monde de l'innovation. Et donc, le côté Nova Pulse représentait bien ce sujet de la nouveauté, de l'innovation avec Nova. Et le Pulse, parce qu'on était justement dans cette optique d'impulser, d'être une étape pour un entrepreneur. Et une étape, hein, comme on dit, hein, ils sont là, il y a un avant, il y a un après Nova Pulse. Donc, on veut impulser la dynamique de l'entrepreneur et entre les entrepreneurs.
Et au-delà du nom, comment est-ce qu'on crée un incubateur, un accélérateur de start-up en 2017 comment est-ce que tu as commencé tes 3-6 premiers mois? Tu peux nous en dire un peu plus?
Eh bien, c'est marrant que tu dis ça, parce que je pense que le moment où je me suis projetée sur ce qu'est un incubateur, c'est quand j'ai postulé à l'offre, parce que j'avais pas forcément le parcours qui cochait toutes les cases. Hein. Directeur d'incubateur, on n'a pas fait d'école pour ça. C'est rarement un métier qu'on a fait avant, parce que c'est un nouveau métier. Donc la manière dont j'ai postulé à l'offre, justement, j'ai répondu à une candidature, hein, c'était une fiche de poste sur Indeed, très classique. Mais par contre, j'ai toujours une aversion pour les lettres de motivation. Je ne suis pas quelqu'un de très conventionnel. Comme on est en train de parler de recrutement, j'aime pas les formules de politesse qui correspondent pas forcément à qui je suis, etc., mais qui sont juste un copier-coller d'une formule de politesse. Donc à chaque fois, je personnalise énormément mes candidatures, et ça, j'ai tout le temps fait dans mes recherches d'emploi, même si j'ai eu que 3 recherches d'emploi dans ma carrière, l'hyper-personnalisation et de la projection sur un poste. Donc en fait, le début de Nova Pulse est né avant même que je rentre chez Nova Pulse, parce que j'avais écrit 3 pages de, pour moi, qu'est-ce que c'était un incubateur, un accélérateur.
Et c'est comment, encore mieux qu'une lettre de motivation.
Voilà, déjà, tu donnes un peu de ton jus de cerveau. Et qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire à titre personnel, parce que quand on crée une nouvelle histoire et qu'on incarne cette histoire, forcément, on donne beaucoup de soi. Beaucoup de ses valeurs, beaucoup de ses convictions. Donc ça se ressent forcément aussi dans la construction d'un projet. Donc ça a commencé à ce moment-là, je pense. Et après le début de Nova Pulse, donc quand on part d'une page blanche, le premier objectif, c'était de m'acculturer à ce nouvel écosystème qui était celui de Nantes. Donc aller rencontrer énormément de personnes de Nantes. Comme il y avait toute une phase de construction un peu immobilière, parce qu'il y avait la phase de rénovation du bâtiment, toute cette étape-là m'a permis d'aller rencontrer et de parler avec une cinquantaine de personnes sur Nantes, soit des homologues qui avaient déjà créé des accélérateurs ou équivalents incubateurs académiques, publics et privés. Je les ai tous rencontrés pour savoir ce qu'eux, ils faisaient, dans une perspective de faire différemment, d'arriver avec une offre complémentaire pour ne pas être en frontal, pour être plutôt en coopération qu'en concurrence, et puis d'expliquer finalement quelle était notre démarche. Pourquoi est-ce que Sodero Gestion faisait ça? Et pourquoi on ne le faisait pas en partenariat avec un dispositif existant, parce que c'est ce qui pouvait être reproché au départ. Pourquoi créer un énième dispositif alors qu'il en existe déjà 6 ou 7 quoi.
Et comment était perçu le projet auprès des autres accélérateurs, incubateurs? Parce que j'imagine que tu étais quand même bien reçu, mais est-ce que tu as eu des petits challenges?
Alors, j'ai senti qu'il y avait des a priori, mais finalement, cette démarche d'aller les rencontrer, se présenter, dire qui j'étais et quelles étaient les intentions, a vraiment déverrouillé le sujet. Et ça a été bien perçu, bien accueilli. Et aujourd'hui, Nova Pulse, 5 ans plus tard, on peut dire qu'à sa place dans l'écosystème, il travaille bien avec les autres dispositifs. Et c'est avec beaucoup de sincérité en plus.
Tu te considères comme entrepreneur?
Eh bien, je me considère comme... Oui, je peux me considérer comme entrepreneur. On dit plus intrapreneur, de fait, parce que j'entreprends au sein d'une structure. Et je suis salarié, donc je ne suis pas entrepreneur au sens libre de toute action, parce qu'il y a quand même cet aspect-là qui est différent.
Au démarrage, c'est peut-être un peu plus confortable, on va dire.
C'est plus confortable, parce qu'on n'a pas clairement le stress de la fiche de paie à la fin du mois. Et ça, c'est pour côtoyer des entrepreneurs depuis 5 ans. C'est le point de tension numéro 1 des entrepreneurs, le stress numéro 1 qui fait arrêter des beaux projets, hein, d'ailleurs. Hein, c'est le cash personnel et la situation personnelle des dirigeants. Donc c'est toujours dommage. Donc c'est sûr que Nova Pulse, il y avait moins de risques sur ce côté-là. Quand on se lance sur un Nova Pulse et qu'on a ce confort-là, on sait qu'a priori, si tout se passe bien, ça pourra aller loin, quoi.
Néanmoins, il faut quand même rendre des comptes.
Néanmoins, il faut rendre des comptes, mais ça n'a jamais été un problème pour moi de rendre des comptes, parce que je pense que ça c'est intéressant de revenir dessus aussi. Quand on rentre dans des environnements hiérarchiques, l'entreprise pyramidale, même si tout a tendance à s'aplatir au fur et à mesure du temps, on arrive avec nos codes éducatifs, la manière dont on a été élevé, éduqué, Et je pense qu'on arrive avec un bagage quand on arrive dans le monde de l'entreprise. Et il faut en avoir conscience, parce que je pense que ça a des répercussions sur la manière dont on appréhende ce nouvel environnement, qui n'est pas son environnement familial, mais qui peut avoir des analogies. Je n'ai jamais eu de problème avec la hiérarchie, parce que j'ai eu des parents, justement, qui m'ont éduqué avec beaucoup de bienveillance. Mmh. Ce n'était pas très descendant, il y avait énormément de communication, et il y a toujours un rapport de force équilibré entre l'adulte et l'enfant. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème avec la hiérarchie. Je n'ai pas de problème à avoir un rapport équilibré avec des personnes qui sont au-dessus de moi et d'avoir des échanges entre adultes,
bien sûr,
sans rapport de force, en donnant des points de vue, finalement, d'adultes. On a le droit d'avoir des désaccords. On n'est pas obligé de dire oui à tout ce que dit un boss, parce qu'il n'a pas toujours raison si tu lui apportes des explications de toi, ta connaissance du terrain, de l'environnement dans lequel tu travailles au quotidien. Je pense qu'il est intelligent pour l'entendre. Et en fait, il faut absolument mettre des rapports de ce type avec ses collègues qui soient au-dessus de nous, en dessous de nous, à côté de nous. Enfin, bref, c'est de la communication permanente et de l'échange, en fait.
C'est hyper important de pouvoir justement ne pas créer un rapport de force, mais être sur des discussions horizontales, de pouvoir se donner des feedbacks, même s'il y a des enjeux, je pense, financiers, des objectifs, etc. Nous, les entrepreneurs, on est un peu comme tes enfants, du coup. Chez Nova Plus, t'en as vu passer, non ?
Ouais, c'est sûr. Mon rapport à l'entrepreneur est... parfois, c'est mes enfants. Parfois, on a envie de presque que ce soit des collègues. Parfois, c'est des... ça devient des amis. D'autres fois, c'est des personnes qui me nourrissent. En fait, il y a un peu de tout, je pense. Le rapport est varié. Une chose est sûre, c'est que quand on est au contact des entrepreneurs... on continue d'apprendre énormément, et ça, c'est riche dans un poste, je trouve, d'être en apprentissage permanent. Et c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, d'ailleurs, parce que je pense que c'est important dans la construction d'une carrière aussi. Et c'est pareil, c'est beaucoup de... Avec un entrepreneur, c'est beaucoup d'interaction, beaucoup d'écoute mutuelle. Je pense qu'il y a pas mal d'analogies entre l'éducation et le développement personnel et professionnel des entrepreneurs. Ouais.
T'en as vu passer combien ?
Là, on est à une soixantaine d'entreprises accompagnées, donc ça fait une centaine de cofondateurs, femmes et hommes du territoire, depuis 5 ans.
Depuis 5 ans, oui. Et tu peux nous parler peut-être de belles histoires que tu as pu voir passer là chez Nova Pulse. T'as deux boîtes, deux, trois personnalités comme ça qui t'a gardé peut-être du lien, des gens qui t'ont vraiment impacté dans ces cinq dernières années.
Ouais, c'est pas évident comme question parce que ça crée des...
il faut pas qu'il y ait de jalousie ou de chouchou, évidemment. Est-ce que tu peux nous partager une petite anecdote, par exemple ?
Toutes les histoires sont belles, en fait, parce que toutes les histoires sont... C'est des individus, derrière, c'est des personnalités. Donc, en fait, chaque histoire est belle. Et on voit justement le poids de d'où vient l'entrepreneur, son background, sa vie professionnelle, sa vie personnelle et professionnelle qui met dans son projet. Donc ça m'a toujours surpris. Donc forcément, l'entrepreneur arrive avec aussi ses croyances, parfois à détricoter, à déconstruire pour qu'il puisse ne pas être l'ennemi de son propre projet, mais aussi avec aussi beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Donc des projets des coups de cœur sur des projets, j'en ai pas mal. J'en ai même souvent un ou deux par promo. Bien sûr, j'ai une appétence sur des sujets à impact parce que c'est aussi mon background. J'ai baigné 10-12 ans là-dedans. Et donc aujourd'hui, quand j'ai des projets comme Bernie ou Bout à Bout qui sont en train de recréer des filières pour le retour de la consigne, moi, ça me parle bien. Et je trouve en plus que les projets impact sont souvent portés par des personnes à forte conviction et avec des valeurs,
beaucoup de passion.
Des valeurs humanistes très fortes. Donc forcément, j'ai assez vite des coups de cœur pour les équipes qui sont sur des sujets impact. Et après, donc ça, c'est le respect et les valeurs communes. Mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour ceux qui sont sur des projets très compliqués de deep tech. Donc, je suis obligée de citer Caslo Analytics parce qu'en plus, c'est mon numéro un. C'est le premier projet, le premier entrepreneur que j'ai accompagné, qui était même dans la version bêta de Nova Plus en amont du programme de lancement du programme officiel. Donc, ça, un numéro un restera toujours le numéro un. Jacques Lévy, qui est le chercheur qui a lancé Caslo Analytics et qui est sur un sujet de deep tech parce qu'ils font de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. sujet que je ne connaissais pas du tout, que je ne comprenais pas, parce que je suis plutôt issue d'un background commercial et non pas ingénieur, mais c'était passionnant. Mmh. Et en plus de voir des mathématiciens et des chercheurs pendant 30 ans devenir des entrepreneurs, c'est toujours
Ouais, j'imagine que c'est assez aspirant, inspirant et aspirant de les suivre au quotidien. C'est quoi pour toi, du coup, les qualités que tu peux voir chez les entrepreneurs que tu vois passer, au-delà des entrepreneurs, parce qu'il y a aussi énormément de salariés dans les différentes boîtes, sur des alternants, des stagiaires. On a aussi chez Nova Plus des personnes qui sont directement en CDI, parce qu'on a des boîtes assez avancées. Tu peux nous parler de qualités que tu peux retrouver dans ces jeunes pousses, dans ces projets de start-up, hein, ouais, finalement. Et puis peut-être les principaux challenges que tu arrives à... Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être livré à soi-même, d'avoir ce combat avec soi-même quand on monte un projet. De tous ces pièges-là, parce que c'est vrai que c'est une aventure parfois très personnelle et on peut être très isolé quand on est entrepreneur, quand on démarre. Mais on peut commencer par les qualités. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager, ouais, Amélie?
Et on va même faire l'analogie avec celui qui cherche un emploi, parce que c'est la même qualité, je trouve. Quand tu es entrepreneur, pour réussir, ou quand tu cherches un emploi, ou quand tu crées ton plan de carrière et que tu veux te vendre, je pense que la clé, c'est l'énergie. C'est l'énergie positive que tu mets dans ton projet et l'état d'esprit positif. Mmh. Je vois bien que les entrepreneurs qui sont positifs, qui sont dans la solution et qui ne sont pas dans le problème, bah forcément, il arrive des plus belles choses. Ouais. Donc, mettre de la joie et du positif dans un projet, quel qu'il soit, ça amène du succès. Et le défaut, finalement, de ceux que je vois s'arrêter ou échouer, c'est souvent des gens qui avaient un état d'esprit un peu négatif et qui s'entouraient de gens négatifs et qui trouvaient tout le temps des excuses. Des coupables, en fait. Ouais. Des responsables.
Bon, on ne citera personne. Hein.
Non, on ne citera personne. Mais des responsables de ce qui leur arrive de mauvais, en fait.
Ouais.
Donc, je pense que ça, dans la vie, c'est important, en fait, d'avoir cet état d'esprit positif. Encore une fois, c'est facile de le dire. Parce qu'on a un esprit positif, il y a plein de raisons d'avoir un esprit positif et optimiste sur la vie, c'est aussi notre background éducatif, nos blessures, etc. Mais je pense que ça, c'est clé dans l'appréhension du monde, de la vie et d'un projet d'entreprise. Si je n'avais qu'une à citer, c'est celle-là que je citerais.
Ouais. C'est vrai que quand tu es tête dans le guidon, mieux vaut se concentrer sur le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Néanmoins, ça demande beaucoup, beaucoup de résilience pour vivre le truc à fond avec Grimp. C'est vrai que, bon, et en plus, face à une équipe, c'est vrai que c'est toujours mieux de ouais, mettre en lumière un peu de positivité et de ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas ou sur les douleurs, parce qu'on a tous des douleurs. Et parfois, comme tu le disais, des choses un peu plus personnelles. Ouais. Et quand on entreprend, je trouve qu'on se met un peu à nu face à tout le monde, face à son marché, face à ses partenaires, face à Nova Plus potentiellement. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce combat personnel. Et alors, certains ont la maturité pour le gérer, d'autres, bon, c'est un apprentissage. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est comme un marathon, je pense. Non, c'est hyper intéressant. Comment on rentre chez Nova Plus, du coup, comment est-ce qu'on pitch le jury de Nova Plus? Comment ça se passe? Est-ce que ça a évolué, d'ailleurs, j'imagine, depuis 5 ans, là, ça a dû...
Oui, on évolue forcément dans ce principe de sélection, parce qu'on apprend aussi au fur et à mesure, et sur le programme et sur les profils d'entrepreneurs et les projets qu'on accompagne finalement mieux aussi, qu'on arrive mieux à accompagner. Donc on a évolué plutôt dans la qualification, mais par contre le process reste assez le même. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui ont envie de découvrir Nova Plus, ils rencontrent l'équipe de Nova Plus, donc ceux qui font le quotidien Nova Plus, Thomas, Claire, Hélène, moi.
Ouais.
Et cette première rencontre est finalement assez décisive, parce que c'est nous qui faisons la présélection pour après le présenter à un comité de sélection élargi, qui vont plutôt avoir un objectif de consultation pour nous aider à décider de finalement sur les 10-12 projets qu'on leur présente, qui sont les 6-7 qui semblent être plus en fit avec ce que propose Nova Plus et à la fois la qualité du porteur de projet et du projet.
Ouais, je me souviens de ce comité de sélection. C'est vrai que différentes personnalités dans une salle, mais comme tu le dis... En préambule, on échange avec toi par téléphone, on envoie une candidature, tu nous files un coup de pouce, tu nous ouvres une salle si on a besoin de faire une intégration avec son équipe. Donc c'est finalement un rapport humain très classique, c'est beaucoup de relationnel. Et puis après, bon, évidemment, il faut quand même avoir des choses solides et plus ou moins performer lors de la soutenance. C'est une soutenance. Hein,
et ça reste très intitu personnel parce qu'on sait qu'on a quand même une année à passer ensemble. Ouais. Il faut que, aussi un feeling humain, il faut qu'on ait envie d'accompagner cette personne ou ces personnes, et inversement, que les entrepreneurs aient envie d'être suivis par une Amélie ou un Thomas, quoi.
J'ai une question un petit peu tricky, comme on dit en anglais. T'as des gens qui sont arrivés pitcher leur projet avec beaucoup de bluffs, beaucoup de paillettes, comme on peut le voir des fois. C'est vrai que des fois, on peut arriver avec un PowerPoint, une belle présentation, des beaux fondateurs, je sais pas si c'est le terme, mais des gens voilà, qui impactent. Finalement... Il n'y a rien derrière. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça?
Bah oui, ça arrive forcément, parce qu'on se laisse embarquer par l'enthousiasme d'un entrepreneur. On peut être bluffé, je pense, et avoir confiance très vite en quelqu'un qui sait parler. Et je pense que ça marche aussi dans le recrutement. Hein. Mmh. C'est exactement pareil. C'est marrant de faire des analogies entre l'entrepreneuriat et le recrutement, mais il y a des personnes qui savent très bien se vendre. Un entretien professionnel, et finalement, une fois que tu es dans l'exécution opérationnelle d'un projet, c'est pas si bien que ce qui avait été vendu sur le papier au départ. Donc je pense que ça arrive assez souvent. Donc oui, ça nous arrive aussi,
des entrepreneurs au bout de 5 ans maintenant, vous avez peut-être vous détectez les signaux.
Mais des personnes dans la vie qui se racontent des histoires et qui se mentent à eux-mêmes sans même s'en rendre compte, il y en a plein en fait. Mais c'est pas grave, parce que peut-être que des fois ça peut marcher. Ouais. Et quand on croit profondément en quelque chose et qu'on croit en soi, après il y a juste le déclic de l'exécution qui est important, et on peut aussi s'entourer de personnes qui peuvent accompagner l'exécution si un entrepreneur ne peut pas exécuter, quoi.
Ça c'est un mot hyper important, l'exécution. Moi j'aime bien beaucoup dire que l'exécution amène la stratégie et pas l'inverse. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je suis complètement d'accord.
Surtout dans notre univers, peut-être.
Ouais, complètement d'accord. Je pense que il y a un peu, je peux mettre les gens dans des cases, mais il y a deux catégories. Il y a ceux qui aiment penser stratégique, réfléchir et mettre beaucoup d'intellectuel dans ce qu'ils font. Et je pense qu'il en faut. Et il y a ceux qui sont plutôt à l'inverse, des doers. Des doers, des pirates et des exécutants qui finalement construisent leur stratégie au fur et à mesure qu'ils avancent sur la base de ce dont ils se nourrissent, de ce qu'ils entendent, du marché, de ce qui les entoure. Moi, je suis plutôt de cette catégorie-là. Ouais. J'aime pas passer du temps sur des grandes théories. C'est bien de poser les choses au fur et à mesure, mais je suis plutôt dans l'action. Et pour l'instant, ça a plutôt fonctionné de faire comme ça. Et ça m'a nourri, quoi.
Je pense que la clé dans n'importe quel projet, finalement, à un moment donné, c'est mettre de la vélocité, c'est d'aller vite pour aller chercher son premier client, par exemple, pour se mettre peut-être en difficulté face à son marché, mais c'est vrai que des fois de rester comme ça à réfléchir, à pas prendre de décision, ça peut être hyper anxiogène. Et puis il y a un moment, peut-être qu'on abandonne plus facilement. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il faut y aller. Il y a un moment, il faut faire passer la première marche. Et puis après, ça vient plus ou moins tout seul. Je crois qu'on est pris dans l'engrenage, en connaissance de cause.
Action, tester, prendre des décisions assez vite. Ouais, je suis assez d'accord.
Pendant le programme là, d'un an chez Nova Pulse, moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le partager, parce qu'au-delà d'être accepté dans un programme d'accélération, il y en a beaucoup. Il y a de l'incubation, il y a de l'accélération. D'ailleurs, c'est quoi la différence pour toi entre, ça parlera peut-être à certains, mais rentrer dans un incubateur et rentrer dans un accélérateur? Moi, j'ai la sensation qu'on est quand même plus dans un accélérateur ici chez Nova Pulse que dans un incubateur.
Il y a plein de définitions différentes, mais celle que je donne, moi, c'est que l'incubation, c'est quand tu es encore dans t'es de l'idée à la création de l'entreprise, donc t'es encore en itération même sur ton idée, t'es pas vraiment lancé, tu peux faire marche arrière un peu quand tu veux, parce que t'as pas créé ta structure. Alors que l'accélérateur, mais c'est pareil, hein, y a plein de niveaux d'accélération possibles. La structure est créée, il y a une équipe engagée, on a déjà des premières étapes de franchie, et on a besoin de se déployer et d'avoir les moyens de se déployer.
Tu échanges aussi parfois avec des écoles, je te vois souvent faire venir visiter l'accélérateur de start-up, parce que c'est vrai que ça interpelle, ça intrigue. Je pense que quand on est à l'école, on ne connaît pas forcément ces dispositifs. Ouais. Quel lien tu as avec les écoles de la région, parce qu'ici on est à Nantes, je te vois souvent passer avec...
Oui, et puis l'objectif, c'est justement de dire aux étudiants qu'il y a plusieurs voies possibles, le salariat, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. Donc notre rôle, nous, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat et de parier sur l'entrepreneuriat et l'innovation pour transformer nos sociétés. Donc plus il y a d'entrepreneurs sur cette planète, plus a priori il y aura des belles choses. C'est vraiment un pari qu'on fait parce que justement c'est des bonnes énergies à mettre au service de la société. D'aller déjà dans les écoles, soit être jury, soit présenter nos métiers, soit présenter des entrepreneurs aux étudiants. Ça permet de générer des vocations, peut-être. Donc, c'est l'idée. Donc, en effet, on interagit pas mal avec les étudiants pour ça.
Puis, il y a du recrutement aussi. Quand on monte une boîte, c'est vrai que prendre un stagiaire, un alternant en start-up, bon, déjà, c'est hyper stimulant pour le jeune, hein, faut quand même le dire, parce qu'on est vite autonome ou on a vite des responsabilités par rapport à un grand groupe. Mais il y a aussi pas mal de recrutement ici. Quand on voit passer, je crois que c'est une dizaine de boîtes par an.
Ouais. Et même une douzaine à Nantes, une douzaine à Rennes, et en effet les premiers salariés des entreprises des start-up, c'est des stagiaires, des alternants, parce que de toute façon ils n'ont pas les moyens de se payer des seniors tout de suite, hein. Donc c'est bien d'avoir des bonnes interactions aussi avec les écoles qui proposent des bons étudiants pour les start-up.
Comment t'as rencontré Hélène, Thomas, Claire, toutes les personnes qui cohabitent autour de toi dans ce... Je sais pas, j'appelle ça un projet, mais
j'ai cherché un job à un moment donné, et puis dans la suite de ta carrière, tu deviens recruteur.
Ouais. Donc
j'ai chassé. J'ai chassé et j'ai souhaité m'entourer de gens qui étaient complémentaires de qui j'étais, de ce que j'étais, et qui pouvaient apporter leur brique à ce projet. Donc classique, hein, fiche de poste, recrutement, récupération de CV, sélection, entretien. Pour choisir la personne avec qui on peut avancer un petit bout sur le projet Nova Plus.
Ouais. T'as même du coup recruté un ancien entrepreneur de Nova Plus.
Exactement.
Je pense à Thomas. Mais...
Thomas, ouais, on fait du recyclage d'entrepreneurs, en effet, qui a fait partie de la promo 3 de Nova Plus avec son associé Ronan, qui ont finalement décidé de stopper, de revendre leur entreprise et de stopper leur association sur leur projet. Et Thomas avait une forte culture entrepreneuriale, start-up, une forte culture générale sur tous ces sujets-là. Et donc, je lui ai proposé de rejoindre l'aventure Nova Plus pour être de l'autre côté, finalement, dans l'accompagnement des entrepreneurs.
Ah, c'est top, ça fait une belle complémentarité. Je voulais juste revenir sur l'ouverture du... J'ai failli dire le campus de Rennes, mais c'est presque un campus, hein, mais l'accélérateur Nova Plus à Rennes. Moi, je suis passé dans les locaux, c'est vrai que c'est assez cool, c'est bien placé, et puis il y a une nouvelle direction artistique, là, je crois que vous avez revu le branding, je ne trouvais pas que c'était si vieillissant que ça, finalement, mais là, ça donne une autre envergure, peut-être, à Nova Plus.
Exactement, 4 ans, ça fait 3-4 ans d'opération, on se dit il faut toujours insuffler des nouvelles dynamiques. Donc l'année dernière, la nouvelle dynamique, c'était de créer un deuxième Nova Plus sur Rennes, développement de Rennes, et on s'est dit que c'était aussi l'occasion de revoir notre identité de marque, pour changer de catégorie. C'était vraiment l'objectif, changer de catégorie et de montrer que ce qu'on avait fait, c'était bien, mais on avait envie d'aller encore plus loin et on avait une ambition plus forte, avec toujours la revendication de l'approche locale et territoriale. C'est ce qu'on est, on a cette approche locale et territoriale forte, mais avec la volonté d'avoir un rayonnement national, voire plus. Et pour ça, il fallait revoir cette identité de marque. C'était notre conviction. Et c'était pas si vieillissant que ça, mais c'était très fait maison, hein. Le site web et l'identité de marque de Nova Plus, j'avais fait du WordPress avec mes petites mains,
c'est toi qui l'avais fait.
Parce que frugalité, au départ, quand on lance un projet, on a envie de mettre les budgets dans l'entrepreneur, donc dans l'accompagnement des entrepreneurs, dans les experts pour les entrepreneurs, et toute la partie marketing com a été faite avec beaucoup de frugalité, donc c'était un WordPress fait maison. Avec ses forces et ses faiblesses, évidemment. Donc, on ne pouvait pas l'emmener si loin que ça. C'est un peu comme quand on fait du no-code et à un moment donné, il faut basculer sur une tech un peu plus forte pour aller plus loin. Là, c'était un peu pareil. Et on n'avait pas trop travaillé la partie visuelle, mais c'est pas tant ça, hein. C'est plus le fond et le discours. De faire savoir davantage ce que l'on fait chez Nova Plus. C'est quoi les convictions de Nova Plus, c'est quoi le discours, c'est quoi les partis pris. La raison d'être, exactement, les valeurs, parce qu'aujourd'hui, c'était survolé, en fait, dans l'ancien site internet, et même dans nos discours. Donc là, l'objectif, c'est aussi d'être plus fort là-dessus, Et ça marche parce qu'en trois semaines de mise en ligne de notre site internet, on a énormément d'entrants et de personnes qui ont envie de venir découvrir nos puces.
Ça, je ne savais pas.
Et donc, c'est un succès parce que ça attire du coup au-delà du territoire.
J'ai une question du coup qui va faire la transition avec la suite. Nova Pulse, là, c'est bientôt derrière toi. Tu pars sur de nouveaux horizons, mais pas très loin. Qu'est-ce qui a motivé ce tu peux nous parler de ta future aventure, là, mm-hmm. et pourquoi ?
Oui. Quand je suis arrivée sur Nantes, il y a 5 ans, je venais du monde de la RSE du monde durable, je l'ai dit tout à l'heure,
ouais,
et j'étais aussi passée chez Rexel. J'étais secrétaire générale de la Fondation Rexel. Donc c'était le bras armé mécénal de Rexel, qui est un distributeur de produits électriques. Et j'accompagnais des entreprises sociales et des associations dans le progrès énergétique. Donc j'avais un budget que je devais allouer à des associations, donc toujours dans cette perspective d'améliorer les conditions de la planète et de l'humain. Et quand je suis arrivée à Nantes il y a 5 ans, j'ai dit « un jour, je créerai un fonds à impact ». Donc on revient il y a 5 ans en arrière. J'avais un peu soufflé à Sodero Gestion à l'époque, mais c'était pas le bon timing. Donc c'est important d'attendre le bon timing quand on a des projets comme ça ou quand on a des rêves et des targets. Donc c'était pas le bon moment et j'ai dit, en plus j'allais être bien occupée sur le développement de Nova Pulse. Donc très bien, on développe Nova Pulse, j'y reviendrai plus tard.
T'as pas lâché le morceau, hein.
Non, parce que je le mets toujours dans un coin de ma tête, mais il y a pas mal de choses comme ça que je mets dans un coin de ma tête et j'attends le bon moment et la bonne opportunité et le petit signe qui me dit c'est maintenant.
Ouais.
Et donc là, il y a eu une accélération l'année dernière, donc changement de gouvernance, des nouveaux sujets, la réglementation qui pousse pas mal la finance à bouger sur ces sujets-là. C'est sûr, Nova Pulse étant filiale de Sodero Gestion, je baigne aussi dans l'équipe de Sodero Gestion depuis 5 ans. C'est pas deux mondes complètement déconnectés, hein. Nova Pulse et Sodero Gestion, on fait partie de l'équipe. Donc j'ai suivi ce changement de gouvernance et les nouveaux sujets qui allaient être abordés, j'y ai même contribué. Dans la réflexion stratégique du futur de Sodero Gestion, dans lequel forcément on y a remis du financement de la transition environnementale comment la finance pouvait être au service aussi du développement économique, social et environnemental du territoire. Et là, c'est le bon timing parce qu'il y a ce sujet qui monte chez Sodero de créer un véhicule pour financer la transition environnementale du territoire. Et j'ai dit, je veux bien en être et je veux bien développer ce projet. Donc, je ne quitte pas complètement Nova Pulse parce que ce n'est pas évident de quitter comme ça du jour au lendemain un projet que l'on a en plus créé. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je reste pas mal encore impliquée sur les sujets de Nova Pulse. La mise en place aussi de l'organisation de l'équipe. Et je continue d'accompagner les porteurs de projets qui sont arrivés il y a 6 mois, parce que je n'ai pas envie aussi de les lâcher avant qu'ils quittent le programme. Mais je travaille aussi chez Sodero Gestion sur des projets de développement, et notamment la réflexion sur c'est quoi la thèse d'investissement si on a envie de créer ce nouveau fonds, et qui vont être les souscripteurs de ce fonds, et quelles seront nos cibles. Donc c'est un retour finalement à mes anciens amours qui étaient la RSL Développement Durable, et tout en mettant tout ce que j'ai appris depuis 5 ans sur l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Et je vais réconcilier les deux pour pouvoir créer ce projet. Donc c'est assez cohérent finalement. Et puis il y a toujours une autre petite graine dans mon cerveau que je redéclencherai au bon moment, peut-être dans 5 ans. Il faut toujours avoir des rêves, comme on dit. J'ai pas envie de reciter Oresan parce que je le cite souvent, mais ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête, mais j'y crois vraiment.
Ouais.
C'est comment tu chemines sur tes projets, sur tes envies, sur tes rêves, mais que tu te laisses le temps de maturer les projets et tu mets de la patience en fait dans ce que tu fais pour y arriver.
Ça, peut-être qu'un jour, c'est toi qui créeras ton entreprise. Bon, tu l'as plus ou moins fait quand même avec Nova Pulse. Moi, je te considère comme une entrepreneur. Et puis, bon, je pense qu'il n'y a pas non plus de catégorie. On est tous parfois entrepreneurs, que ce soit en famille, dans des associations. On entreprend tous tout au long de notre vie. Mais c'est vrai que tu n'as pas le syndrome de l'imposteur. Enfin, en tout cas, nous, enfin non, il n'y a pas ce mot-là, quoi. C'était avec nous dans le game.
Non, si pas du tout. Et je pense qu'il faut pas l'avoir. Et on a plein. C'est bien que tu parles de ça aussi parce que c'est un sujet intéressant. C'est les croyances qu'on se met. J'ai pas de diplôme. Mm-hmm. J'ai fait une petite école. Mm-hmm. J'ai pas de réseau. J'entends assez souvent ça des étudiants qui cherchent des.
Comment on fait
des
du réseau alors selon toi?
Ouais. Et comment on fait du réseau et comment on fait pour pas complexer par rapport à qui on est en fait. Ouais. Il faut faire une force de ce qu'on est. Et très bon exemple chez Price. Hein. Je suis arrivée en stage chez Price. Autour de moi, il n'y avait que des X, des HEC, des SCP, des ESSEC. Au départ, j'arrive, je fais waouh, c'est sûr, ils ont le cerveau qui fonctionne vite, tout va bien. Mais en fait, la clé, c'est ça, c'est cette intelligence-là. Mais les comportements et les états d'esprit surpassent parfois cette intelligence, en fait.
Bien sûr.
Donc le diplôme, c'est bien, mais en fait, c'est une brique dans ce que tu es.
Ce qui compte, c'est ce que tu fais.
Ce qui compte, c'est ce que tu fais, et ton savoir-vivre, ton savoir-faire, l'intention que tu mets dans ce que tu fais, et tu peux surpasser, parce que dans ta vie, tu t'apprends toujours. Donc tu apprends toujours au fur et à mesure. Donc tu vas te retrouver sur des missions compliquées, t'apprendras et t'essaieras, et ça marchera. Donc de pas avoir ce syndrome de l'imposteur, c'est important quand on veut avancer dans la vie et dans sa carrière professionnelle, de dire qu'on est à la bonne place. Si on est là, on a quelque chose à donner de soi et on fait de notre mieux et on donne ce qu'on a à donner. Ouais. Ça marche pas, c'est pas grave, on sera mieux ailleurs peut-être, mais il faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Ouais.
T'as eu des coups de stress ou des moments compliqués pendant ces 5 ans où tu sortais de ta zone de confort? Je pense que tu sortais assez régulièrement de ta zone de confort où vraiment t'as eu des doutes, t'as eu des moments un peu difficiles.
Alors j'adore sortir de ma zone de confort, donc c'est important. Donc se mettre à risque et en danger de temps en temps, c'est bien parce que c'est là où on apprend le plus, hein, ça c'est clair. J'ai pas eu tant de stress que ça. Ça s'est plutôt bien déroulé d'une manière générale. Le projet Nova Pulse, d'ailleurs tous les incubateurs et accélérateurs ont le même problème, hein. Le modèle économique n'est pas évident, donc
tu peux peut-être nous parler du modèle économique transparence.
Il y a toujours de l'itération à faire sur le modèle économique parce que surtout quand on a des ambitions et qu'on est contraint par des moyens, ça t'es bien placé pour le savoir quand on est entrepreneur, c'est qu'on a envie d'aller plus loin, plus vite, etc. Mais il faut des moyens. Donc le modèle économique des incubateurs accélérateurs, il n'est pas évident parce qu'il faut dégager du revenu. Aujourd'hui, moi j'ai le confort d'avoir le capital investisseur avec moi qui fait une avance remboursable aux entreprises pour qu'ils puissent se payer finalement les services de Novapulse. Alors que justement, ils sont dans une phase où ils n'auraient pas mis ces 24 000 euros forcément sur de l'accompagnement. Ils auraient continué d'avancer avec beaucoup plus de frugalité probablement.
C'est vrai que ça aurait été une barrière à l'entrée.
Donc j'ai la chance que Sodérogestion fasse cette avance remboursable pour que le modèle Novapulse puisse tourner. Mais néanmoins, à l'échelle macro, le pari, c'est de se dire que pour Sodérogestion, ces 24 000 euros, un jour, soit ils les récupèrent, ou soit si jamais ils ont pris des parts dans quelques entreprises qu'on va dérisquer et qu'on va leur flécher, ça fera de la plus-value sur du temps long. Donc c'est sûr, quand on a une vision très long-termiste comme Sodérogestion, on se dit pourquoi pas, mais on ne le saura vraiment que dans 5-8 ans. C'est difficile d'avoir du recul là-dessus. Mais parfois... c'est chahuté, bah là, quand on est dans un changement de gouvernance, typiquement, ou quand il y a tout qui change au-dessus et qui n'était pas la genèse de l'histoire, ils remettent forcément en question et ils remettent un peu de court-termisme dans l'histoire. Donc il faut le défendre. Il faut défendre le projet, se dire ça n'a pas des impacts financiers à court terme, mais ça en aura probablement à long terme, et c'est surtout que ça apporte autre chose qu'un TRI ou qu'un retour sur investissement. Il y a le retour émotionnel, il y a le retour d'expérience. Bref, il y a tout un tas d'autres facteurs qu'il faut mettre en avant, tout un tas d'autres critères qu'il faut valoriser pour dire il n'y a pas que l'argent finalement aussi, il y a d'autres sujets qui sont très importants. Donc ça vient challenger en permanence, hein, parce que forcément il faut pas être considéré comme un centre de coût qu'on va éliminer du jour au lendemain parce que il y a des difficultés financières, j'en sais rien, quoique Sodéro et la caisse d'épargne, je pense que de ce côté-là ils en ont pas beaucoup, voilà. Donc il y a ce challenge aussi de défendre un modèle et de défendre des convictions, dire qu'on est aussi au-delà d'un modèle financier.
ce qu'on appelle des BSAR, si je ne me trompe pas.
C'est des bons de souscription en action. Oui, c'est des avances remboursables contre des bons de souscription en action.
Moi, je fais comme si je ne savais pas, mais j'ai quand même signé un peu de documents. Je les ai regardés un petit peu quand même. C'est vrai que c'est intéressant de comprendre le modèle économique. C'est vrai que je pense que c'est plutôt sain de le challenger régulièrement.
Oui.
Peut-être qu'un jour, le fonds d'investissement investira directement dans certaines boîtes avec une sélection peut-être plus rigoureuse, peut-être plus difficile pour les entrepreneurs. C'est un modèle... Moi, je trouve que c'est pour te faire le retour d'expérience, je trouve que c'est un modèle qui est assez agréable, qui nous permet de pas dégager de la trésorerie directement, d'avoir des super locaux en plein centre-ville de Nantes. Et pour faire un petit témoignage, c'est mes 30, mes 15 secondes. C'est vrai, quand je suis arrivé, c'était au mois de septembre, là on est au mois de juin, fin septembre plutôt. On devait faire quelque chose comme 10-15 000 euros de chiffre d'affaires. On est, je crois, à plus de 130 000 euros de chiffre d'affaires.
Belle accélération.
On doit avoir 5 ou 6 clients. Là. On a, je crois, 18 ou 19 partenaires écoles. On était 4 dans l'équipe. Là, on va passer à 7. Ça nous a bien aidé, hein, ça c'est sûr. Ça nous avait ouvert pas mal de portes. Mais je trouve que ce qui est hyper... Le plus important, c'est que ça nous a donné un environnement de travail. Mmh. Je me souviens, lors du comité de sélection, on m'a posé la question, mais Paul, est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin de rejoindre Nova Pulse? Vous avez déjà des clients, un produit qui tourne, vous construisez une équipe. Bon, c'était assez flatteur, hein, c'est vrai. Néanmoins, moi, je crois que ma réponse, ça a été, nous, on débarque à Nantes, faire du réseau, comprendre l'écosystème, se faire accompagner par les bonnes parties prenantes, avoir un fonds d'investissement potentiellement... en collaboration comme ça au-dessus de nous, autour de nous, c'est aussi stimulant et je pense que ça a été la bonne décision. Et je crois que statistiquement parlant, quand on est entrepreneur, quand on monte un projet, de rejoindre un incubateur ou un accélérateur avec un modèle économique quand même, il faut quand même faire attention à ce modèle économique, statistiquement parlant, je crois qu'on a plus de chances d'avoir un certain succès, en tout cas de survivre.
C'est ce que disent les stats. Après,
voilà, je sais pas, j'ai pas la statistique exacte. Bon, je vois que ça fait déjà 45 minutes, Amélie, et j'ai pas prévu de faire un podcast de 3 heures, et puis en plus je crois que t'as pas mal de boulot en ce moment. Bravo pour ton parcours, c'est super inspirant, et moi j'ai appris plein de choses, c'est vrai que je connaissais pas tout ça. Une dernière question, même si tu devais par exemple le partager à tes filles qui plus tard feront des études, qui porteront des projets peut-être, pourquoi est-ce que tu penses que le futur c'est maintenant selon toi?
Ça va recouper ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le futur c'est maintenant et toutes les actions qu'on mène aujourd'hui et tout ce que l'on fait aujourd'hui dans notre quotidien, il faut le penser sur du temps long. Et donc, en ce sens, c'est le futur. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact sur notre futur. C'est un peu bateau comme réponse. Je parle énormément d'ailleurs à Benefi, tu fais le petit clin d'œil, pour que quand il y a des irritants qui leur arrivent dans leur vie, et ils trouvent des sujets inconfortables pour eux. Je leur dis, vous avez le pouvoir de changer ça. Et c'est vous qui l'avez, quoi. C'est vous qui allez écrire cette nouvelle histoire. Donc, de oser. D'avoir de l'audace, de croire que c'est possible de transformer notre société et tous ces irritants qui viennent nous chatouiller tous les jours pour un futur désirable.
Merci Amélie, c'était hyper passionnant, je suis ravi d'avoir eu cet échange avec toi. Je te dis à bientôt.
Merci pour l'invitation.
On n'est pas très loin. Salut.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt !